considère que l'acquisition des terres est une priorité, absolue. Autrement, on va se retrouver avec la ville de Pondichéry entre deux espaces d'Euroville et on traversera la ville pour aller d'un bout à l'autre. Je suis Bertrand, je suis Eurovillien depuis une dizaine d'années. Je suis surtout concentré maintenant sur lever des fonds pour acheter les terres d'Euroville. On est en train de monter une structure pour Euroville pour faire la levée de fonds. Je m'occupe essentiellement de mettre en place cette structure administrative qui nous permettra de faire cette levée de fonds. Euroville a levé des fonds pour les terres dans le passé, mais il n'y a pas eu une activité organisée, si on peut dire. Mon travail à moi, plus particulièrement, c'est de déterminer une stratégie de levée de fonds. Donc de mettre en œuvre non seulement la partie administrative, mais aussi la stratégie globale de levée de fonds. Donc quels sont les partenaires avec qui on va travailler, quels sont les meilleurs moyens de leur présenter Euroville.
Comment es-tu arrivé là ?
Moi, je me sens très concerné par le besoin de créer, parce que ça n'existe pas encore, l'intégrité territoriale d'Euroville. C'est-à-dire que l'Euroville a un plan d'urbanisme qui correspond à un territoire. Mais le territoire, Euroville ne le possède pas. Quand Euroville a démarré, il y a maintenant 50 ans, c'était un plateau plus ou moins désertique, à 12 km de Pondichéry, qui était une petite ville endormie. La pression immobilière, foncière, n'était pas celle qu'elle est devenue maintenant, que Pondichéry est une ville d'un million d'habitants qui est aux portes d'Euroville. Les prix des terrains ont flambé. On achetait en 68 un acre de terre pour 5000 roupies. Et maintenant, c'est entre 30 et 50 lacs.
Comment au tout début les terres ont été acquises ?
Alors il se trouve qu'à l'époque, les terres étaient dans un état d'érosion très avancé. L'Inde était un pays différent. C'est un peu difficile de s'imaginer pour les gens qui viennent en Inde aujourd'hui ce que pouvait être l'Inde à l'époque. Et très pauvre. Les gens étaient relativement contents de trouver des fadas qui allaient acheter ces terres érodées. Donc les terres ont été achetées.
D'où venaient les fonds ?
Le maire avait fondé la Shriromindo Society,
ouais,
qui a fait des levées de fonds, surtout en Inde, autant que je sache, auprès de disciples de Shriromindo et de maire. Maire était encore vivante à l'époque, donc Shriromindo et maire avaient un large followers.
Des
large groupe de disciples. Et donc, je pense qu'ils ont levé les fonds parmi ces gens-là.
Voilà.
Certains étant des industriels, et donc Aurobindo était reconnu en Inde comme il s'est battu pour l'indépendance de l'Inde. Il avait quand même une réputation, en plus de son travail spirituel et ses écrits. Donc voilà.
Quel est le budget nécessaire aujourd'hui ?
Le montant, c'est entre 200 et 250 millions d'euros. Donc, si on avait 10 millions d'euros aujourd'hui, ce qui est déjà une somme énorme pour Euroville à lever, ça nous permettrait de pallier au plus pressé. Voilà.
Et la campagne de levée de fonds qui a eu lieu, donc, qui est en cours j'imagine, mais qui a débuté avec le dîner qu'il y a eu la semaine dernière, c'est fructueux ce genre d'initiative ?
Il y a une base d'amis d'Euroville qui donne régulièrement. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'élargir la base. Dans les 5 dernières années, il y a eu plus de 2 millions d'euros qui ont été levés, donc on lève des fonds. Mais ce n'est pas suffisant pour les besoins qu'on a.
Parce que ce que j'allais te demander, mais tu as un peu répondu, c'est qui sont les donneurs ? Qui sont les principaux donneurs d'Euroville ? Est-ce que ce sont des particuliers qui font partie justement de cette base ? Ou est-ce que c'est plus des organisations non gouvernementales, ou même le gouvernement indien, ou l'UNESCO, ou je ne sais quel organisme ?
Il y a trois donneurs principaux. La majorité, c'est des privés. Le gouvernement de l'Inde donne pour des projets spécifiques. Et il y a des fondations privées qui donnent pour des projets spécifiques.
J'étais étonnée d'apprendre que cet hôtel Oro Resort, qui donc est au centre d'Euroville, n'appartient pas à Euroville, ne fait pas partie d'Euroville. Comment on envisage la suite avec cet hôtel, par exemple ?
Déjà, en Inde, un propriétaire privé, je pense comme beaucoup de pays a le droit de construire un bâtiment dans la mesure où il a les autorisations administratives, il a le droit de construire quelque chose sur son terrain. Voilà. Dans le plan d'urbanisme d'Auroville, il y a plus de 60 développements comme cet hôtel dont tu parles, avec des gens qui les font en général de façon légale, certaines fois de façon semi-légale et des fois pas légale du tout. Bah, la difficulté, c'est qu'ils ont des objectifs qui sont des objectifs commerciaux dans la majorité des cas, donc qui ne sont pas les objectifs d'Auroville, ils ne sont pas intéressés par le projet, ils sont là pour capitaliser sur le projet. Donc Auroville est presque une marque, on peut dire, qui a une certaine réputation en Inde et qui est dans tous les guides touristiques de l'Inde, on va trouver Auroville. Donc eux, ils ont des terres dans Auroville, ils se disent, ben, on va faire un hôtel pour gagner des sous. Donc ça n'a aucune connexion avec Auroville. La Greenbelt, de façon générale, est à risque. C'est-à-dire le périurbain de Pondichéry est en train d'en... C'est de l'immobilier de premier choix. C'est vert, c'est une communauté internationale, c'est près de Pondichéry, pas très loin de Chennai. Et c'est boisé, donc si vous avez de l'argent, vous achetez une parcelle de terre et soit vous attendez, spéculation, soit vous y construisez une ville de résidence secondaire ou même une résidence primaire pour les gens qui sont à Pondichéry, vous habitez dans un endroit sympa et qui reste relativement bon marché par rapport au prix de l'immobilier en Inde. Des gens qui viennent de Bombay, où les prix sont au même niveau qu'à Londres ou à Tokyo, ils vendent leur appartement, ils viennent s'acheter ici une villa, une résidence. Donc oui, c'est de l'immobilier de premier choix, donc il y a un danger imminent. Il faut savoir que l'Inde prévoit une augmentation de population de plus de 300 millions d'habitants d'ici à 2050. Donc il y a déjà 1,3 milliard habitants. Donc ils vont monter jusqu'à 1,5 milliard ou plus d'ici 2050. Et il va bien falloir que ces 300 millions d'habitants, ils se logent quelque part. Donc il y a une pression démographique phénoménale et un vrai danger puisqu'on est à côté de Pondichéry. Donc si Auroville ne sécurise pas les territoires, ne protège pas les territoires, l'intégrité territoriale d'Auroville, le projet La Galaxie n'existera pas. Et c'est inéluctable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'empêcher, on n'a pas les moyens de l'empêcher. Le projet est tellement vaste que je considère que l'acquisition des terres est une priorité absolue. Autrement, on va se retrouver avec la ville de Pondichéry entre deux espaces d'Auroville et on traversera la ville pour aller d'un bout à l'autre. C'est dantesque hein, ce qu'on essaye de faire. Parce que quand on parle de 200 millions d'euros, on est une toute petite communauté. Donc il y a d'autres stratégies qui sont en train d'essayer d'être mises en œuvre pour protéger la Greenbelt. Travailler avec le gouvernement du Tamil Nadu pour faire un plan d'urbanisme. C'est-à-dire que le gouvernement reconnaîtrait le plan d'urbanisme d'Auroville qui dit que la Green Belt n'est pas constructible. C'est une zone réservée à l'agriculture ou à la forestation ou à la récréation. Mais ça, c'est une autre solution. C'est-à-dire, dans l'attente de faire l'acquisition des terres, on les protège avec l'aide du gouvernement qui dit la Green Belt est une zone verte. Donc, mais à nouveau, comme on est à Auroville, c'est des projets plus ou moins bien acceptés, parce que plus ou moins bien compris, il y a une certaine peur de perdre l'indépendance. Donc voilà, cette proposition est controversée. C'est plus problématique parce que s'il y a des zones de haute densité dans la ville, et que s'il y a un propriétaire qui a un terrain dans cette zone de haute densité et qui souhaite y mettre un immeuble des 8 étages, ça sera plus difficile de l'empêcher de faire. Voilà. Mais ça, c'est une solution
intermédiaire.
C'est pas une panacée, mais ça permet de résoudre certains problèmes, particulièrement dans la Greenbelt.
Et est-ce que vous réfléchissez à aller voir des entreprises, oui. Tu vois, des gens qui pourraient donner beaucoup plus? Oui.
L'Inde a fait voter une loi il y a quelques années, 3-4 ans, de Corporate Social Responsibility. Dans le monde, les grosses industries ont une responsabilité sociale. En Europe ou aux États-Unis, on encourage les corporations, Corporate Social Responsibility, à donner une partie de leurs profits. Et en Inde, bien, et c'est le seul pays au monde, tant que je sais, on fait une loi qui dit non seulement on vous encourage, mais c'est la loi. Donc vous devez le faire. Donc ils doivent redonner 2% de leurs profits. Et donc, la loi a été votée, donc ils sont obligés de redonner. Et il y a une annexe à la loi qui dit, bah, vous pouvez donner pour ça, 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 ça et ça. La difficulté, c'est qu'on doit lever des fonds basés sur des projets. Donc le travail, c'est déjà de trouver des porteurs de projets qui vont monter des projets que nous, on peut aller proposer aux donneurs des projets. Même les fondations, même le gouvernement, toutes les aides institutionnelles donnent sur présentation de projets. C'est le problème de Doroville, c'est un projet énorme. On n'est que 3000, y compris les enfants, et avec une population de permanence, peut-être 2500 adultes qui sont là en permanence, donc avec des ambitions, énormément de projets, donc tout le monde est très occupé. Et c'est difficile de recruter les gens qui ont les compétences, l'intérêt. On oublie un peu le danger. C'est pour ça que je suis ici à la radio, pour que les gens qui nous écoutent donnent généreusement. On a un site de crowdfunding, ouais, qui s'appelle Global Giving. Il y a un bouton donation, donc n'hésitez pas. C'est-à-dire, parlez-en à vos amis. Hashtag Funding Auroville, et vous nous trouvez sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Ouais. Faites-le savoir, Auroville existe, c'est un endroit qui vaut le coup. Donc partagez le message. Si Auroville venait à disparaître, ça serait pour moi, ou à ne pas être réalisé comme tel qu'il est, ça serait une grande tristesse, parce que Auroville, c'est quand même dans le monde difficile dans lequel on vit, c'est pour dire le moins, c'est un espace d'oxygène. On peut respirer, on peut être soi, il faut le protéger à tout prix.